Nous sommes aujourd'hui dans la troisième prédication de cette série en ouvrant le premier épître aux Thessaloniciens. Et nous voulons voir comment une jeune église qui traverse des difficultés attend le retour du Seigneur, annoncé prochainement, suite à la prédication de Jean-Baptiste, changer de vie, car le royaume est proche et les guitares sont tombées. C'est mieux que les guitares tombent que les trompettes du ciel sonnent. Voilà, parce que là, c'est la fin. Donc, nous voulons voir comment cette jeune église prend son inspiration et sa foi et son courage en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés donc dans le troisième chapitre et le thème, je l'ai sous-traité, la meilleure réponse à donner au diable, la meilleure réponse à donner au diable, c'est vivre notre foi en Dieu et manifester l'amour du Christ. C'est vivre notre foi en Dieu et manifester de l'amour du Christ. Donc nous allons lire ensemble sur cinq tableaux le texte du troisième chapitre. Et je vous invite, les uns ou les autres qui prennent plaisir, à lire à haute voix. Qui va commencer?
C'est pourquoi, n'étant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés.
De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, maintenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne nous ait tenté, que nous ayons travaillé pour en rien.
Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur.
Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous recevoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu, lui-même, notre Père et notre Seigneur, Jésus-Christ, dirige notre parcours jusqu'à chez vous.
Il vénère.
Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses anges.
Merci. La meilleure réponse à donner au diable, c'est vivre notre foi et manifester l'amour du Christ. Comme une mère ou comme un père sans nouvelles de leurs enfants, nous voyons là le cœur de l'apôtre Paul qui s'inquiète. Il s'inquiète aux chrétiens qui sont encore jeunes dans leur foi, sans grandes expériences de la vie chrétienne, et pourtant déjà ébranlés par des situations, par des tribulations difficiles qu'ils doivent traverser. On pourrait dire, ça commence bien, ou plutôt, ça commence plutôt mal. Il savait exposer aux persécutions des gens prêts à tout pour s'opposer à l'évangile. Vous savez, certains Satan n'épargne personne et cherche à anéantir tout ce qui nous attache au Christ. C'est son seul but. Il fait ça jour et nuit. C'est sa grande vocation. Il épargne personne. Il cherche à anéantir ce qui nous attache à Christ. N'y tenant plus, il avait envoyé Timothée à Thessalonique. Vous trouvez ces récits aussi en parallèle, écrits dans les livres des Actes, chapitre 18. Il a envoyé Timothée auprès de cette église pour affermir les chrétiens et les encourager dans la foi. Paul se souciait de la santé spirituelle de ses enfants spirituels qu'il avait lui-même amenés à Christ. Dans l'amour qu'il leur portait, il voulait les aider autant que possible, et à la distance, il était à Athènes, à répondre à l'appel de Dieu qu'ils avaient reçu de demeurer fidèles à la vérité de la bonne nouvelle, donc de la parole de Dieu, et de grandir dans la foi en Jésus-Christ. Vous dites, mais comment ils peuvent tenir à la parole de Dieu et grandir dans la foi si tout leur environnement, toute la situation dans laquelle ils vivent est finalement comme un vent qui arrive en face? Comment se construire dans la foi si finalement notre foi ne provoque que adversité, incompréhension, opposition? Nous allons voir. Satan avait réussi d'empêcher l'apôtre Paul de se rendre à Thessalonique. Il écrit qu'à plusieurs reprises, il a essayé de venir lui-même. Mais Satan l'avait bien empêché. D'ailleurs, il a bien empêché à d'autres reprises. Notre adversaire, il est redoutable. Là où il peut nous barrer la route, il va nous barrer la route. Là où il peut mettre des bâtons dans les roues, il est bien muni pour le faire. Mais, et ça j'aime bien, dans cette réalité qui est celle de Dieu, si le diable a réussi à empêcher Paul de venir à Thessalonique, le Satan était incapable à ce que Timothée soit envoyé. Croyez toujours à la puissance de Dieu. Vous dites, je vais jamais y arriver. Mais Dieu arrivera peut-être par un autre chemin. Finalement, c'est Dieu qui a la dernière parole et le Satan doit toujours se soumettre. Même si la situation actuelle est à désespérer, il y a toujours une voie, toujours une porte que Dieu ouvrira. Le Satan avait bien réussi d'empêcher l'apôtre Paul de se rendre à Thessalonique, mais il n'a pas réussi à ce que Timothée soit envoyé. Qu'est-ce qui est donc la mission de Timothée? Il devait s'assurer que finalement le travail auprès de ces personnes devenues chrétiens à Thessalonique n'était pas en vain. Ça, c'était le grand souci de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'ils deviendront les chrétiens, quand nous ne serons plus là? Qu'est-ce que deviendront les chrétiens quand la situation est difficile à vivre? Est-ce qu'ils vont rester fidèles? Est-ce qu'ils vont oublier? Est-ce qu'ils vont se faire tout petit? Est-ce qu'ils vont abandonner la foi? Quand Paul a envoyé Timothée aux Thessaloniciens, il ignorait toute la situation actuelle. Mais il savait par contre que toute église, et qu'importe leur stade, jeune ou déjà plus mature dans la foi, est constamment menacée par une quiconque adversité. Et si l'adversité et l'opposition ne devient pas de l'extérieur, nous les chrétiens, nous sommes suffisamment fous et capables de provoquer nos propres problèmes à l'interne. Et d'une manière ou d'une autre, le Satan cherche une entrée à l'Église pour la menacer. Et là, le but, c'est pareil. L'arrêter. Anéantir. On comprend le souci de l'apôtre Paul qui se demandait si Satan avait réussi à décourager les Thessaloniciens de sorte qu'ils étaient prêts à renoncer leur foi en Jésus-Christ, leur sauveur. Et croyez-moi, j'en ai vu des chrétiens renoncer à leur foi parce qu'ils disaient « c'est pas facile d'être chrétien ». C'est pas facile d'être chrétien. Mais qui vous a dit que ce soit facile d'être chrétien? C'est pas facile d'être chrétien, c'est exigeant même. Tu t'opposes par le simple fait que tu déclares une foi, une confiance en Dieu, tu t'exposes toi-même aux difficultés. C'est pourquoi il cherche à s'assurer que son travail n'était pas en vain. Avec beaucoup de chaleur, l'apôtre Paul avait recommandé donc Timothée aux chrétiens dans cette ville. Donc la mission de Timothée était double. Premièrement, il devait affermir la foi de ces chrétiens par l'enseignement. Donc je vous rappelle, ce jour de l'apôtre Paul et son équipe missionnaire n'étaient que de très peu de temps dans cette ville. Mais l'annonce de l'évangile, rappelez-vous, le premier chapitre, se faisait avec puissance. Et les gens de cette ville disaient, mais Silas et Timothée, ils prêchent tellement puissant qu'ils vont faire bouger le monde. Et ils l'ont fait. Ils ont fait bouger le monde. Et la deuxième mission, c'était les encourager dans la foi. D'abord les enseigner, maintenant les encourager par les soins pastoraux au milieu des tribulations. Il est mieux de traverser les temps difficiles accompagnés. Trois de mes filles ont appris à conduire avec la conduite accompagnée. Et disaient, c'est plus rassurant s'il y a quelqu'un à côté qui est capable de prendre le volant ou à l'extrême freiner. En tout cas, des difficultés sont plus faciles à traverser ensemble. Donc, double mission de Timothée, affermir leur foi par l'enseignement et les encourager par des soins pastoraux. Satan, lui, il utilise les persécutions pour ébranler la foi des croyants, anéantir le travail des missionnaires, des pasteurs. Satan cherchait à persuader les chrétiens dans cette ville de l'inutilité de leur foi. Qu'est-ce que ça vaut que je sois chrétien? Est-ce que c'est utile que je reste encore fidèle? Est-ce que ça vaut la peine? Sois sûr, quand ces pensées te traversent la tête, il se peut que tu parles à toi-même, mais il est plus probable que quelqu'un te murmure dans l'oreille. C'est celui qui cherche à te décourager. Tu ne vas jamais arriver, tu ne seras jamais assez bon, ta foi ne sera jamais assez stable. Regarde, il y a des gens qui ont plus grande foi que toi et qui sont tombés. Le Satan cherche à persuader que notre foi soit inutile, sous le prétexte des persécutions qui subissent. Mais pourquoi tu voudrais accepter une telle difficulté simplement parce que tu es devenu chrétien? Tu es fou? Renonce à ta foi et mène une vie tranquille. Satan se servira plus tard dans cette même ville des nouvelles tribulations à leur faire croire cette fois-ci. Une fois, il cherche à dire ta foi est inutile, mais Satan cherche aussi à te faire croire. Et pour les chrétiens à Thessalonique, il leur fait croire que le jour du Seigneur serait déjà venu. Le retour de Jésus que tout le monde attendait. Il disait, restons fermes, ça ne va pas durer longtemps. Jésus-Christ a promis de revenir. Et maintenant, quelqu'un dit, « Ah, tu n'es pas au courant, toi? Tu n'as rien vu ni entendu? Il est déjà passé et tu es toujours là? » Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé que le retour de Dieu, le retour de Jésus-Christ se fasse et les personnes autour de toi disparaissent, sont enlevées dans le ciel? Et tu te retrouves toujours là. Donc Satan voudrait leur faire croire que cet événement ait déjà eu lieu et eux, ils sont toujours là, donc Jésus ne voudrait pas d'eux. Que le retour du Christ était déjà arrivé. Et tout cela dans le but de détruire ainsi leur espérance en sa venue. Est-ce que le diable a déjà réussi à détruire ton espérance? Déjà, à quoi tu espères? De ce que Jésus fasse dans ta vie? Est-ce que tu as déjà cédé à toutes ces murmures, propositions, faire croire, mensonges? Il est très fort dans tout cela. Les Thessaloniciens ne devaient pas être surpris, leur écrit l'apôtre Paul, par les persécutions qui les atteignaient. Il dit même que la persécution et que l'opposition fait naturellement partie de notre foi. Tu dis, quoi? Déjà, quand ça arrive exceptionnellement, ça me fait peur. L'opposition, l'adversité, fait partie naturellement de ma foi. Il dit à un autre endroit dans le texte, nous sommes destinés exactement à ces adversités. Si tu deviens chrétien, attends-toi, ça ne serait pas facile. Tu gagneras tout, mais ça ne serait pas facile. Elles font partie de la vie des chrétiens. Et la raison que l'apôtre donne, c'est parce que Jésus-Christ, notre maître et notre sauveur, a été rejeté avant nous. Donc il est tout à fait normal que ceux qui appartiennent désormais à Jésus-Christ vont être rejetés comme Christ était rejeté dans ce monde. En tant que chrétiens, est-ce que nous sommes destinés à vivre des tribulations? Le Seigneur l'avait annoncé à ses disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage. Ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu. Combien de fois je me tiens à cette parole? Je tiens à cette parole. Je me le redis cette parole. Jésus a vaincu. Est-ce que je vais vaincre? Je ne suis pas sûr. Mais j'appartiens à celui qui a vaincu. Les amis, ça change tout. Ça enlève rien de la difficulté, ni de l'inquiétude, ni de la souffrance. Mais ça me fait croire. Ça me fait espérer. Je voudrais vivre cette victoire que Jésus a obtenue. Je voudrais être victorieux avec lui. L'apôtre Paul répète ce même principe à la fin de sa vie, quand il écrit en 2 Timothée 3:12, « Tous ceux qui veulent vivre paisiblement et pieusement dans la foi en Jésus-Christ. » Est-ce que vous voulez vivre paisiblement et pieusement votre foi en Jésus-Christ? Moi, je dirais oui, de préférence. Hein? Voilà, il ajoute à la fin, ils seront persécutés. Tu cherches à vivre tranquillement ta vie, tu vois, de passer outre.
De passer outre.
Que personne ne voit, que personne n'apprenne que je sois chrétien. Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Tu voudrais vivre paisiblement ta foi? Non, non, non. L'adversité te retrouve tout seul. Tu ne peux, en tant que chrétien, tu ne peux pas être suffisamment muet ou tranquille ou petit. Le diable va te trouver. Personnellement, ça me rassure aussi un peu. Parce que aussi petite est ma foi, et aussi bien que je voudrais vivre la foi et la qualité de la foi qui est la mienne, le diable est inquiet par ma foi. Pour cela, il me cherche. Si je n'étais pas intéressant pour le diable, il ne me collait pas sur la peau. N'est-ce pas? On dit ça? Il se colle sur la peau? Non. À la peau, hein?
Non, ça va.
Ça va. Oh, merci.
Qu'est-ce qu'il m'a dit?
Tu as le don de... Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit bêtise. Donc, la philosophie grecque, d'ailleurs comme d'autres religions encore aujourd'hui, disent que toutes choses sont destinées d'avance. On n'a aucune possibilité d'influencer le courant qui passe. Ce fatalisme est aussi très présent dans la philosophie grecque, selon laquelle tous les événements sont fixés à l'avance. Et Paul écrit aux Corinthiens, ne croyez pas ça, que vous êtes victime des choses qui vous arrivent. Ayez plutôt foi et espérance en Dieu et soyez acteurs. Acteurs dans ce qui vous arrive. Acceptez déjà de ce qui vous arrive. C'est déjà plus facile de l'accepter. Pas avec un fatalisme, mais acceptez cette réalité au lieu de l'ignorer, fuir, cacher, faire semblant que ça n'existe pas. Soyez des gens qui vivent avec des yeux ouverts, qui disent, voilà, c'est la situation qui est la mienne. Dieu a permis que je vive cette situation. Je vis avec le vainqueur. Donc, je vais mettre ma foi en actif. Les tribulations sont même nécessaires pour éduquer et pour former notre caractère chrétien. Les chrétiens les moins intéressants, dont je me livre un peu, hein, on peut couper ça peut-être après, c'est toi qui signe. Les chrétiens qui sont les moins intéressants par rapport à leur foi, et aussi dans leur manière de vivre leur foi, sont ceux qui cherchent toujours la tranquillité, toujours. Ils se mettent même à grande distance avec Dieu de ne pas être exposés aux attaques du diable. Parce que plus loin que tu es de Dieu, moins intéressant que tu es pour le diable. Moins que tu vis activement ta foi, moins ta foi sera attaquée. Et certains chrétiens ont compris que ça fonctionne. Donc, ils réduisent leur activité dans la foi, le volume de leur foi, leur espérance, un strict minimum. Ils vivent leur foi de cette manière-là. Il ne faut pas exagérer, hein. De temps à autre, quand j'aurai envie, quand j'aurai l'occasion, ces chrétiens-là ne vont pas vivre grand-chose. D'ailleurs, leur caractère de chrétien va facilement diminuer. C'est peut-être eux les derniers qui vont le remarquer. Mais d'autres personnes vont le remarquer que c'est plus le même caractère du Christ qui anime leur vie. Donc on peut dire, et là on a l'exemple de l'apôtre Paul qui écrit cela dans ses lignes, les tribulations sont nécessaires pour éduquer et former mon caractère. Est-ce que je voudrais avoir un chrétien qui a un caractère? Un caractère fort? Qui s'affermisse? Qui est même fier d'être chrétien? Moi? Je dirais oui. Et je crois ceux qui me connaissent diraient oui avec moi. Les tribulations sont nécessaires parce qu'elles démontrent la réalité de ma foi, dit Pierre dans son premier épître, chapitre 1, verset 7. Elles démontrent la réalité de ma foi. Je suis vivant! Est-ce que vous savez à quel point vous êtes vivant? C'est très simple. On peut faire un test. Vous allez vous pincer ici. Si ça fait mal, vous pouvez faire le test, hein. Non, vous ne voulez pas être sûr. Hein. Moi, je suis vivant parce que ça me fait mal. Ok? La réalité de ma foi, je le découvre quand je suis dans une difficulté. Est-ce que ma foi me soutient? Est-ce que je marche et je traverse grâce à ma foi et dans la foi? Les tribulations sont nécessaires parce qu'elles rendent capables d'encourager ceux qui passent par les mêmes difficultés. Quand moi j'ai un souci ou un problème, je demande à ceux qui sont déjà passés avant moi par les mêmes situations ou des circonstances. Et ma question c'est, comment tu as fait pour rester fidèle? Comment tu as fait pour ne pas perdre ta foi? Comment tu as fait de pouvoir continuer à prier? Et je suis hyper content que d'autres personnes peuvent me rendre un témoignage des difficultés qui sont les miennes, d'ailleurs, de ce que nous vivons ensemble. Donc, elles rendent capables d'encourager ceux qui passent par les mêmes difficultés. Imagine-toi, quelqu'un te demande conseil et tu dois dire, « Ah, tu sais, il faut que tu vois le pasteur. » Là, je ne voudrais pas être à ta place. Quelle nullité, quelle faiblesse. Est-ce que tu n'as pas de témoignage à donner? Comment tu as, dans les mêmes circonstances, tenu à garder ta foi? Vois le pasteur, vois les spécialistes. Je dirais, passe d'abord d'une manière victorieuse et tu auras la joie de dire à d'autres, écoute, je vais te raconter et on va le faire ensemble. Ça change tout. Les tribulations sont nécessaires parce qu'elles permettent le développement des vertus chrétiennes, comme la patience. Et tu sais, ça fait déjà une semaine que je suis, je ne sais pas, avec le Seigneur, je ne suis pas approché, et voilà ma famille, mes enfants, et au travail. Déjà une semaine? Oh, ça vient juste commencer. Ah, tu crois? Mais je croyais que c'est déjà très longtemps que ça dure. Ah, tu connais pas la patience dans la foi? La persévérance? C'est quoi ça? L'endurance? Ces choses se développent dans les difficultés. Tu deviens pas champion si tu t'entraînes pas. Les tribulations sont nécessaires parce qu'elles rendent les croyants plus zélés à répandre l'évangile. Tu dis, chez moi, c'est le contraire. Chez moi, c'est le contraire. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un défi. Je réagis par rapport à des provocations. J'étais entendu rire. Mais tu as raison, Vincent. J'ai réagi par rapport aux provocations. D'ailleurs, j'aime bien être provoqué. Vous savez pourquoi? Celui qui me provoque a droit à une réponse. Tu me provoques, je te réponds. C'est génial. Tu ne dois pas courir vers une personne. Est-ce que tu aurais la gentillesse de m'écouter? J'ai à te raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Je préfère des gens qui me rentrent carrément dedans en disant, mais Olaf, dans ces temps actuels, comment on peut être encore croyant en Dieu? Ah, tu me demandes, écoute, tu me donnes 2 minutes et je vais te le dire. Plus que la situation est difficile, plus je voudrais y répondre. Au lieu de la fermer, j'ouvre ma bouche. N'ayez pas peur des difficultés, des incertitudes. Et là, je pense à toi. Hein, pour les prochaines semaines. Gardons notre foi et donnons une réponse, notre réponse, à la difficulté qui est vraiment difficile à vivre ou à supporter. Mais moi, je vis avec le vainqueur. Si Jésus a été mis dans les difficultés pour la parole qu'il a annoncée, qui suis-je de mener une vie tranquille et paisible? Et les tribulations sont nécessaires. Elles nous poussent à nous détacher du monde et de fixer nos yeux vers le Seigneur. Garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Qu'est-ce que tu pourrais me communiquer? Comment tu pourrais m'équiper? Seigneur, j'attends de toi. Je te cherche. garder les yeux fixés sur Jésus. Et en dernier lieu, enfin, les tribulations sont nécessaires comme témoignage. Comme témoignage. En voyant de quelle façon les chrétiens traversent les difficultés qui sont propres à tout le monde prend conscience que nous marchons avec Jésus, nous possédons une force qu'ils ignorent. Nous possédons une force en Jésus-Christ qu'ils ignorent encore. C'est toi qui vas en témoigner. Dans les difficultés que tu traverses, tu vas donner un exemple vivant comment Christ fait marcher ceux qui doivent traverser des difficultés. L'Église à Thessalonique se porte bien, dit Timothée une fois de retour à Athènes. L'Église de Thessalonique se porte bien malgré des difficultés auxquelles elle est exposée. En général, les églises se portent mal parce qu'ils vivent des temps difficiles. Si j'ai une prière et un vœu pour notre Église, c'est que un jour, quelqu'un me dira, tu te rappelles de l'Église de Nantes? Elle se porte bien, mais elle traverse des difficultés. Je serais plutôt rassuré, plutôt encouragé. L'Église se porte bien, malgré qu'elle doit traverser des difficultés. Leur foi et leur amour, c'est là la réponse aux difficultés. Leur foi et leur amour retentissent comme un écho sans fin dans le témoignage fort encourageant que Timothée rend de l'Église de Thessalonique. Vivre la foi, vivre dans la confiance de Dieu et manifester l'amour, de l'amour les uns envers les autres pour s'encourager mutuellement sans des réponses que les chrétiens donnent face à la difficulté. Il n'y a pas d'autres réponses qui te font vaincre, qui nous feront vaincre en tant qu'Église. Vivre notre foi et manifester l'amour les uns pour les autres. C'est la réponse des chrétiens contre lequel le diable n'a pas d'armes. Il ne peut rien. Il peut provoquer des difficultés, mais il ne peut pas t'empêcher à continuer à faire confiance en Dieu. Il ne peut pas t'empêcher à aimer tes frères et sœurs. Là, il reste dehors, carrément. Donc la foi, vivre sa foi et s'aimer mutuellement sont des armes contre lesquelles le diable ne peut rien. Pour cela, il dit aussi, l'apôtre Paul, « Tenez ferme dans la foi », verset 8. Ou « Tenez bon », « Tenez bon ». « Tenez bon » est un terme militaire qui signifie « Ne pas battre en retraite face à une attaque ennemie. » On ne se bat pas en retraite. On tient bon. On garde les lignes, nous restons avec le vainqueur. Nous avons peur, oui. Nous sommes attaqués, oui. Tu as des jambes toutes molles, oui. Mais je tiens bon, parce que le Seigneur me donne la force. Tenir bon. C'était d'autant plus nécessaire que les croyants subissaient une forte pression de leur environnement. Ils avaient des persécutions à la fois des Juifs et des païens. Tous étaient contre eux. Mais aussi la situation morale. Morale corrompue, ambiante autour d'eux, était des pièges permanents d'infecter l'Église. L'Église est toujours opposée. Toujours dans l'opposition par rapport au monde et à sa valeur. Combien grand est le soulagement de l'apôtre Paul quand il peut leur écrire « Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en le Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. » Je suis déjà un grand nostalgique, hein, vous le savez. je me projette dans le temps. Et je me suis dit, si un jour, quelqu'un me parlerait de qui vous êtes devenu en tant qu'Église à Nantes. Ceux qui tient bon dans les difficultés. Je crois que c'est exactement mes paroles que je mettrai sur papier ou email ou SMS ou Facebook pour vous dire nous nous rappelons, Imke et moi, nous nous rappelons de votre œuvre dans la foi, de votre travail, de votre amour et la fermeté de votre espérance. Verset 7, dans le deuxième chapitre, il écrit « Nous avons été vraiment encouragés à votre sujet par votre foi. » Je crois qu'une église ne peut pas donner un plus grand témoignage à son fondateur, à son pasteur, si après des années, on pourrait dire ça. Nous avons été vraiment encouragés à votre sujet par votre foi. Et chaque fois que l'apôtre savait ses enfants spirituels fidèles, malgré les difficultés qu'ils devaient traverser, pour lui, c'était comme une bouffée d'oxygène, parce qu'il avait déjà ses propres oppositions, et c'était non pas seulement un souci en moi, c'était un vrai encouragement. Vous manifestez l'amour les uns envers les autres pour s'encourager mutuellement, verset 12. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous avons porté. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plus que 30 fois l'expression « les uns pour les autres » ou des formules similaires qui expriment ces mêmes choses. Et elle est le plus souvent utilisée avec le commandement d'aimer l'autrui. L'apôtre prie que les Thessaloniciens aiment davantage tous les hommes. Vous savez qu'est-ce que ça voudrait dire? Aussi ceux qui le persécutent, ceux qui provoquent des troubles. S'aimer entre frères et sœurs, les amis, ça peut être difficile parfois. Mais aimer tout le monde, tous les hommes, Jésus dit, aimez-vous les uns des autres et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, 44. L'amour n'est pas le seul trait distinctif du croyant. D'autres commandements, dans le Nouveau Testament, nous demandent de manifester une attitude chrétienne. Que nous sommes appelés de manifester vis-à-vis tout le monde, par exemple, à rechercher la paix avec eux. Que nous ne soyons pas querelleurs de notre part. Que nous soyons plutôt connus de rechercher la paix avec tout le monde. Même avec des gens difficiles, qui nous sont difficiles. Que nous ajoutons cette attitude de rechercher la paix. Ou en Galates 6, verset 10, à rechercher à leur faire du bien. Faire du bien à ceux qui me font du mal. Franchement, je trouve que c'est le monde à l'envers. Oui, c'est vrai. C'est le monde à l'envers parce que le monde ne le ferait jamais ça. C'est Jésus qui met ça à l'envers. Je recherche, par ma foi, le bien de tout le monde. En 1 Timothée 2, 1, rechercher à prier régulièrement pour tout le monde, même pour des personnes qui nous sont désagréables. À faire preuve de patience envers eux, de faire preuve de douceur et de respect. Une assemblée chrétienne qui pratique cet amour, cette forme d'amour reflète naturellement et parfaitement l'attitude de Jésus-Christ. Une église qui s'aime mutuellement, c'est la meilleure carte visite que vous aurez jamais à donner à quelqu'un. Par contre, une église qui se querelle fait éloigner et fuir tout le monde. J'ai bien aimé Samson comme tu disais tout à l'heure dans ton témoignage, j'arrive ici pour la première fois, il y a tout de suite quelqu'un qui vient vers moi et me parle agréablement. N'est-ce pas? Jolie carte de visite. Une église qui se reconnaît, qui est reconnue par la foi et par l'amour les uns envers les autres. Et en dernier lieu, afin que votre foi soit complète. Ça, c'est la raison, verset 10, que l'apôtre désire à revenir à Thessalonique. L'apôtre voulait absolument retourner à Thessalonique afin de continuer l'enseignement qu'il avait commencé. Lui, il ne pouvait pas faire. Il a envoyé Timothée. D'ailleurs, nous savons que jamais l'apôtre Paul a pu se rendre dans cette jeune église qu'il a lui-même fondée. Mais il voyait, il voulait apporter ce qui manquait à leur foi. Il avait à cœur de compléter la connaissance des croyants sur la personne de Dieu afin qu'ils aient davantage de confiance en lui. Une petite question. Manquerait-il quelque chose à ta foi? Manquerait-il quelque chose à ta foi? Ai-je des questions qui me perturbent par rapport à ma foi, par rapport au sérieux de ma foi, par rapport au salut, à mon salut? Est-ce que j'aurai des questions par rapport au retour de Jésus-Christ et mon espérance? Par rapport à la vie éternelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui manquerait à ma foi? Alors, je veux me rappeler d'un des grands buts du ministère de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit, qui sont à m'aider à croître dans la grâce et la connaissance de mon Sauveur et Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, 18. Pour conclure, verset 13, dernier verset dans cette chapitre qui, pour moi, pourrait être déjà une lettre toute seule qui s'adresse à cette église. En conclusion, je vais vous lire le verset 13. Que Dieu affermisse ainsi votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec toutes ses anges. Verset 13. Que Dieu affermisse notre foi. Que Dieu affermisse votre foi. Que ma foi soit irréprochable. Que notre foi soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Tu ne l'as peut-être pas noté dans ton agenda pour la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un a noté le retour du Seigneur pour la semaine prochaine? Est-ce que vous êtes au courant de ce que j'ignore? On en rit, les amis. Ça peut se produire à chaque instant. Vous vous installez dans votre vie, comme vous aurez encore des années devant vous, et que le Seigneur reviendra un jour glinglin, il se peut que vous n'aurez même pas le temps pour déjeuner aujourd'hui, ou pour vous coucher ce soir. Ça serait bien. Mais est-ce que vous serez prêts? Si c'était aujourd'hui, vous serez prêts? Dimanche prochain, je vais vous parler dès que la Bible présente le retour de Jésus-Christ. Ce qu'il dit lui-même, l'avènement du retour dans les nuées pour aller chercher son Église. C'est le prochain grand événement dans l'agenda de Dieu. Le Fils, Jésus, ignore la date. Mais le Père, il l'a déjà bien fixé. Et quand le temps que le Seigneur a fixé Soyez sûrs, les choses sont arrivées. Et moi, je voudrais partir avec lui. Et si c'est de mon vivant, je voudrais être prêt. Et si je passerai par un autre chemin, je dois mourir d'abord. Bon, je prends la même direction. Et vous ? Prions. Seigneur, merci pour cet encouragement de cette église qui tient bon, qui vit la foi, qui manifeste de l'amour. Et nous voulons prendre exemple de cette église qui nous encourage, qui nous impressionne par leurs attachements à toi. Nous voulons lui ressembler, Seigneur. Nous voulons devenir nous-mêmes un témoignage pour d'autres à tenir bon, parce que nous-mêmes nous tenons bon dans les difficultés grâce à toi. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui met un défi, le défi de marcher droit et fidèle jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu reviens. Amen.